Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Quand j'entends petite forme, je pense à mes lundis matins, à mes mardis matins, à mes matins en général en fait. Je pense pas nécessairement à du théâtre, parce que oui, j'ai d'autres hobbies que le théâtre, comme la dégustation de produits ménagers, le karaoké sur autoroute, ou encore l'acrobranche, même si je trouve ça un peu dangereux. Sauf qu'une petite forme, c'est aussi le nom qu'on donne à une version condensée d'une pièce, ou une version un peu itinérante, que vous pouvez aussi bien jouer dans le lobby d'un hôtel, le marché de Villedieu-les-Poêles, et même, soyons fous, dans un théâtre. L'errance, c'est notre vie, c'est la petite forme du Nid de cendre, une pièce de Simon Falguière qui est créée en 2019 dans sa première version et qui a été reprise dans une version de 13 heures, vous avez bien entendu, au Festival d'Avignon 2022. Et devinez qui n'y était pas à ce festival ? Moi, Mathis Grosso. Vous écoutez Dramatis, le podcast de Mademoiselle, pour vous réconcilier avec le théâtre ou vous rappeler pourquoi vous n'y allez jamais. Bonjour, je viens vous parler d'une pièce que j'ai vue dans une bibliothèque à Nanterre et qui a tourné dans la ville pendant environ 3 minutes. Il y a des érections dans la salle ? Oui, parce que ce samedi, j'ai été traîné des pieds pour aller voir une pièce, parce que oui, je suis pas toujours là, à aller guiller au théâtre en pas chassé avec des kikis dans les cheveux. Moi, j'avais encore l'International dans la tête parce que je sortais de manif, l'odeur de merguez sur moi parce que je sortais de manif, et envie de péter des abribus parce que je sortais de manif. Bon, sauf que j'ai bien fait de me perdre à Nanterre, en banlieue parisienne, parce qu'il se trouve que l'errance est notre vie. Enfin, en tout cas, l'errance, c'est la vie de la bande de talentueux zigotos de la Belle Troupe, qui est l'atelier de professionnalisation de comédiens du théâtre de Nanterre-Amandier, en gros une école de théâtre en 2 ans. Et la Belle Troupe s'est aventurée dans un pari fou, reprendre le Nid de cendre, la pièce de Simon Falguière qui dure normalement 13 heures, oui, comme les conférences de presse d'Elisabeth Borne, et de condenser la pièce en 1 heure de représentation.
Je m'appelle Simon Falguière, moi je suis auteur, metteur en scène, comédien, je monte que des pièces que j'écris et je dirige depuis maintenant plus de 10 ans une compagnie qui s'appelle Le Cas, qui est implantée en Normandie. Et la dernière grande création que j'ai faite, c'est le Nid de cendre, donc une épopée de 13 heures qu'on a jouée au Festival In d'Avignon. Et là, je sors tout juste de la création de L'errance et notre vie et aussi de la reprise d'un spectacle que j'avais créé au Théâtre National de la Colline qui s'appelle Les Étoiles.
L'errance et notre vie, c'est une épopée tragique, la réunion de deux mondes, celui qui écoute et celui qui raconte. En gros, d'un côté, le nôtre où tout va mal, et de l'autre, celui des contes où tout va mal. Mais c'est aussi le destin croisé de deux amoureux de l'océan, Gabriel qui a eu la mauvaise idée d'être abandonné par ses darons pauvres, et la princesse Anne qui a eu la mauvaise idée d'être une meuf. Oh, en théâtre social hein. Donc en gros, il y a des bails de trahison, de maladie, de tempête et tout un tas de trucs auxquels on fait allusion et qu'on coupe avec plus de violence encore que Jessica Chastain dans un film de Xavier Dolan, puisqu'au fond cette histoire, on la connaît déjà. C'est un peu Shakespeare qui a écrit Narnia en voulant quelques idées de l'histoire sans fin, le tout dans une traduction d'Evgeny Schwartz. Oui, tout ça en même temps. Oui, ce sont des micros histoires qui viennent grignoter la grande. Et ça, ça fonctionne grâce à 3 trucs clés. Le rythme, le méta et la convention.
Oh là là, on en apprend des choses. Est-ce que la personne qui écrit ce podcast n'aurait pas par le plus grand des hasards une pipe, du velours côtelé et une calvitie jusqu'aux épaules ?
Donc je disais, rythme, méta et convention sont les 3 piliers de cette pièce. Le rythme, pourquoi ? Eh bien parce que c'est dit d'entrée de jeu, c'est un pari impossible. Impossible et pourtant assez fréquent. Par exemple, Thomas Joly, qui avait fait l'objet du 2e épisode de ce podcast sur Starmania, mais ça vous le savez déjà parce que vous écoutez tout, Thomas Joly avait mis en scène Henri VI et Richard III de Shakespeare dans une version de 24 heures. C'était incroyablissime, vous n'étiez pas là, c'est dommage. Et sa compagnie avait fait une petite forme qui s'appelait
H6 mètre carré.
Ce titre n'est pas une formule mathématique, non, 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 messieurs, dames. Il s'agit pour nous aujourd'hui d'accomplir une véritable prouesse et relever le défi de la sublimer ici même à 4 acteurs en 45 minutes et sur 6 mètres carrés, oh oui, oh oui.
45 minutes pour résumer 24 heures. Paris complètement stupide, on adore, et la Piccolia Familia avait reçu un franc succès pour cette petite forme qui avait circulé sur les marchés, dans les cours d'école, etc. Même énergie pour L'errance et notre vie. Un rythme soutenu aussi, car au-delà de cette narration ramassée, on s'approche d'autres conventions de jeu.
Oui, l'urgence sur scène, ça suppose une certaine disposition des comédiens et des comédiennes, et cette disposition, ça rappelle un petit peu le théâtre de Tréteaux.
Ouais, foutre, c'est le moment historique.
Eh oui, c'est le moment historique. Nous sommes au XVIIe siècle à Paris, le peuple réclame déjà la démission de Dame Hidalgo, et dans les foires des charlatans, comme, je sais pas, Elisabeth Borne, des charlatans, donc, viennent vendre des drogues. Je parle d'Advil et pas de coke, hein, on se calme Pierre Palmade, et on arrache même des dents à l'époque. Et donc, sur ces foires, on fait parfois ce qu'on appelle des farces. Ces représentations populaires se font vraiment avec que 2 francs 6 sous, il faut être dynamique pour s'assurer l'attention du public dans un espace où ça fuse dans tous les sens.
J'avais envie de rendre hommage à ce théâtre de Tréteaux qui, par son essence, est pauvre, et donc parce qu'il est pauvre, est excessivement théâtral.
Alors on gueule, on s'invective, on y met de l'audace, et à la fin on remballe le petit Tréteaux qui nous a servi d'estrade. C'est un peu le même délire que la Commedia dell'arte en Italie, qui a beaucoup influencé Turlupin, un des grands noms du théâtre de Tréteaux.
Oh non, et c'est encore le moment historique, il s'arrête jamais le minot, ouais.
Non mais ce que je veux dire, c'est la Commedia dell'arte, bon bah voilà, ils avaient des masques, des perruques, de l'impro, des blagues, on essayait de choper l'attention des gens, bref, je vous fais pas un dessin. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que l'errance et notre vie empruntent donc un peu, à mon sens, à cet héritage. Il en tire aussi son sens du méta. Oui, car avant de vous taper 3 minutes de Stéphane Bern, vous m'écoutiez parler de 3 clés qui font le succès de cette pièce, le rythme, le méta et la convention. Le méta donc parce que les comédiens et les comédiennes se battent pour des rôles, se plaignent d'emblée de cette impossibilité de tout condenser, de la gratuité du spectacle ou des coupes sur certaines scènes. Bref, on parle des conditions du spectacle en lui-même dans un spectacle. Le théâtre qui parle du théâtre, etc. Cet en dehors narratif crée du décalage et ce décalage rend à la beauté du spectacle, de l'artifice et du faux, tous leurs honneurs. Bon, en gros, c'est marrant, quoi. Mais alors reste le troisième pilier, la convention. La convention, c'est quoi ? La convention, c'est ce qui, à mon sens, est une des différences majeures entre les mises en scène de théâtre et celles de cinéma. Au théâtre, on n'a pas besoin que ce soit réaliste pour y croire. On n'a pas besoin de 30 mètres de décor pour comprendre qu'on est dans un avion. Et les films qui font abstraction de ce réalisme, et plus que du réalisme d'ailleurs, qui font abstraction de la vraisemblance, sont rares. Parce que même dans Avatar, tout est présenté sous nos yeux. Vous n'avez plus rien à imaginer, plus rien à croire. Le théâtre, c'est quelqu'un qui s'avance et qui vous dit « Mettons que je sois un lézard ». Et ben vous allez faire avec, y croire bon gré mal gré, et ainsi peut-être réaliser le rêve de Jean-Michel. Pour une petite forme, on est plus minimaliste, et donc la convention est plus forte, parce qu'on a moins d'accessoires, moins de décors, moins de comédiens potentiellement. On voit bien que c'est le même Patrick qui joue le roi et ce serviteur qui a 2 répliques dans l'acte 6, mais on n'a pas le budget d'avoir 2 comédiens différents. Alors vous faites abstraction, vous ne voyez pas Patrick, vous voyez le roi, et puis vous ne voyez plus le roi, vous voyez le serviteur. Patrick n'existe qu'au moment du salut, et puis tant qu'à faire, la convention ça veut aussi dire qu'on s'en fout de qui joue qui. Une meuf peut jouer un prince, et vice versa, et c'est pas forcément l'objet d'une blague ou quoi, et d'ailleurs ce serait plutôt malvenu. Dans cette pièce, l'errance est notre vie qui aborde justement des questions de virilisme. Voilà pour les 3 piliers. Rythme, méta et convention sont donc les 3 ingrédients de ce succès. Mais l'errance et notre vie tient aussi à d'autres équilibres. L'équilibre par exemple entre le comique et la poésie dans l'écriture de Simon Falguière. L'équilibre entre les comédiens et les comédiennes de la troupe qui tour à tour brillent par la justesse de leur interprétation. Et l'équilibre enfin entre l'urgence et le temps laissé aux émotions des personnages.
Pour le démarrage, j'ai voulu absolument garder les 2 scènes des accouchements. Les accouchements de l'héroïne et du héros de l'épopée, parce que ce sont des scènes farcesques, presque de Tréteaux, donc c'est des scènes où on rit, et je trouvais que c'était une bonne porte d'entrée, pour que le public puisse se dire « Ah d'accord, on a le droit de rire, donc du coup après on est plus apte à pouvoir entendre des choses plus de l'ordre du drame. »
On n'est jamais perdu dans les rangées de notre vie, et il me tarde de découvrir prochainement le Nid de cendre, dont j'ai l'impression d'avoir découvert un espèce de teaser. Et c'est peut-être ça tout l'enjeu des petites formes, proposées gratuitement dans une bibliothèque, une maison d'arrêt, un lycée, une version plus courte d'une pièce, plus accessible dans un cadre peut-être moins intimidant, plus familier qu'un théâtre.
On est parti pour tenter un pacte avec cet art-là, qui est l'art du théâtre et qui est un art poétique, mais aussi un art pratique, où il faut passer d'un théâtre comme le théâtre de l'université de Nanterre, qui est un très grand théâtre et très beau, à un IME, une toute petite salle, et voir comment, en tant que comédien, on peut venir techniquement passer d'un espace à l'autre. Il y a 2 façons de faire du théâtre. Vitez, il parlait de ça. Soit on fait du théâtre dans des édifices qui sont voués à ça, soit on fait du théâtre dans des abris. Et l'endroit de la décentralisation, et en plus le théâtre des Amandiers, c'est un des premiers endroits de décentralisation avec Pierre Debauche à l'époque, qui avait créé ce lieu. Donc je pense que pour des jeunes comédiens et des jeunes comédiennes, c'était quelque chose de très très formateur. Et en effet, ce qui change le plus, ce sont les espaces évidemment, mais c'est surtout le public. De pouvoir jouer devant des publics très très différents, des publics qui sont pas habitués au théâtre, des publics pour qui le théâtre des Amandiers peut n'est pas un endroit où ils pensent qu'ils ont la possibilité d'entrer. Et du coup, d'aller à leur rencontre, de leur montrer notre art et de leur raconter une histoire, ça, je pense que c'est très, très formateur.
Je serais curieux de connaître la composition de ces salles de spectacle et de voir ce que ça change. Par exemple, moi, j'étais à côté de gens qui prenaient des photos pendant la pièce, qui recevaient des notifs ou mâchaient bruyamment un chewing-gum. Alors, on en pense qu'on en veut, hein, mais moi, personnellement, je préfère ça à des publics trop rodés à l'exercice. D'un point de vue misophonie, évidemment, je suis très heureux de ne pas entendre les gens, hein, donc les publics rodés, c'est très chouette parce que c'est tout polissé, c'est tout calme. Mais d'un point de vue politique, je suis très heureux de les voir brusquer, ces publics rodés, de les voir challenger, de voir leur hégémonie discuter, parce que je suis également, ça ne vous aura pas échappé, un gros gauchiste. Le Nid de Cendre passe donc à la fois en version de 3h et de 13h à Caen, à Nanterre, à Toulouse à partir du mois de mars. Et Dramatis, c'est le podcast théâtre de Mademoiselle disponible tous les 15 jours sur toutes les applications d'écoute. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à vos potes, à vos camarades de manif, comme ça après je deviens célèbre et riche et j'achète un drone. Je suis Mathis Grosso, vous pouvez me retrouver sur Instagram et TikTok pour les Jeunes, pour d'autres recos de théâtre, et vous pouvez aussi me retrouver au premier rang de toutes les pièces qui durent plus de 10h. Allez, battez-vous pour vos droits, allez voir des petites formes et dramatisez, parce que la vie sans drama, c'est comme une blague sans chute.